Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Bon Renaud, ça y est, le jour J est arrivé, il est derrière nous, nous sommes déconfinés. Comment ça s'est passé pour toi ?
Ben, en fait, deux choses différentes. La première, c'est que ça n'a pas changé grand-chose puisque je vais continuer à essayer d'avoir un mode de vie qui soit très respectueux des principes de distanciation sanitaire qui ont été mis en place. Donc, fondamentalement, je ne vais pas du jour au lendemain me mettre à faire n'importe quoi. Et deuxièmement, ce qui a joué, c'est que hier, j'ai été travailler toute la journée. Je suis enseignant, mais mon lycée était ouvert pour des réunions hier. Et donc, j'ai retrouvé le chemin de la grande ville qui est proche de chez moi. Et toi, Eric ?
Écoute, ça s'est passé de façon très souple, puisque comme toi, j'ai retrouvé le chemin de mon lieu de travail, mais c'est très progressif, hein, ce n'est pour le moment que quelques heures par-ci, par-là, et je m'efforce de rester un peu confiné, autant que faire se peut, jusqu'à ce que je n'ai pas d'autre choix que de sortir. Voilà.
Mais écoute, nous sommes sur la même longueur d'onde.
Très bien, alors c'est pas parce que donc le confinement est officiellement et en partie terminé que nous n'allons pas continuer à parler un petit peu des conséquences économiques de cette crise. Et nous avons évoqué au cours des dernières émissions tout ce qui a été mis en place par l'État français depuis le début de la crise pour compenser un petit peu les effets négatifs de celle-ci. On a parlé des chocs sur la consommation, des chocs sur l'offre et sur la demande. Nous avons parlé du prêt garanti par l'État qui a été mis en place. Nous avons parlé de l'injection de liquidités dans l'économie directe par l'État lui-même à hauteur de plus de 100 milliards d'euros. Alors aujourd'hui, ce que tu envisageais de faire, me semble-t-il, c'était de parler un petit peu des conséquences de cette aide, cette fois-ci en termes de dette publique, parce que nous sommes, avec les moyens qui ont été mis en place, passés d'une dette qui était l'équivalent de 100% du produit intérieur brut à une dette qui va représenter pas loin de 115%, ceci n'incluant pas toutefois les conséquences qui vont se découvrir progressivement liées à la mise en œuvre du prêt garanti par l'État, puisque pour l'instant, comme tu l'évoquais aussi récemment, ce prêt à taux zéro coûte 0 euro. C'est juste un engagement de l'État, mais cet engagement, il faudra bien que l'État y fasse face un jour ou l'autre, et là, pour l'instant, on ne connaît pas le montant que ça va représenter sur le budget français.
Oui, tout à fait. Donc l'État s'est engagé à garantir des prêts à hauteur de 300 milliards d'euros. À l'instant T, cela coûte zéro au budget public. Mais pour peu que certaines entreprises ne soient pas en situation de pouvoir rembourser ces prêts, eh bien, il y aura donc des dépenses supplémentaires et donc automatiquement un déficit plus important que prévu. Et puis cette dette de 115% du PIB, elle est actée sur l'idée qu'il n'y ait pas de deuxième vague et qu'il n'y ait pas de reconfinement. Si jamais la situation sanitaire se réaggrave et qu'il faut passer par là, nécessairement, au total, le déficit et la dette seront plus élevés. Alors, juste ce que je propose, c'est de mettre quelques chiffres quand même derrière tout ça, quelques chiffres concrets. Lorsque l'on dit que la dette publique, juste avant la crise, avoisinait les 100% du PIB, est-ce que tu as une idée ?
Elle les a dépassés assez récemment.
Oui, c'est ça. On était juste au-dessus de 100%. Ouais. Est-ce que tu as une idée du montant que cela représente ? 100% du PIB.
Alors, Bruno, j'ai toujours peur d'avancer un chiffre lorsqu'on est dans des ordres de grandeur pareils, parce que on peut se tromper facilement de 2-0. Mais je dirais, en essayant de me baser sur quelque chose d'un peu rationnel, qu'on doit être dans les 200-300 milliards d'euros.
Oui, alors tu es à un coefficient 10 d'écart, voilà. Donc le PIB français est équivalent. Voilà, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Il arrive qu'on se pose la question, qu'on me réponde en millions, toi. Donc pour te dire que là on est loin. Non, la dette publique française s'élève à environ 2300 milliards d'euros. Alors pour expliquer concrètement ce que c'est que lorsque l'État dépense plus qu'il n'a de recettes, eh bien nécessairement il faut bien trouver cette somme quelque part. Donc cette somme, il l'emprunte sur les marchés financiers en émettant des titres financiers qui sont des titres d'emprunt, on appelle ça des obligations ou des bons du trésor concernant l'État. Et ces emprunts doivent être remboursés un jour. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'entre le moment où l'emprunt est réalisé et le jour où il sera remboursé, eh bien, il est stocké quelque part, cet emprunt, et il donne lieu à ce que l'on appelle une dette. Donc l'État a emprunté pour l'équivalent de 2300 milliards d'euros qu'il devra rembourser dans les années à venir et qu'il n'a pas encore remboursé, en intégrant les intérêts.
Alors, d'accord, mais Renaud, si je me souviens bien de mes cours d'économie dont j'ai bénéficié grâce à toi dans les précédentes saisons de l'économie pour tous et dans La France à peur, je me souviens bien que la dette française, ça n'est pas quelque chose de soudain. Ça n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. C'est quelque chose qui existe depuis, en gros, les années 70. Ça avait commencé sous Giscard, me semble-t-il. Et que c'est pas la première fois qu'on frôle, voire qu'on dépasse le chiffre de 100%, n'est-ce pas?
Alors si, les 100%, non, c'est la première fois. Ce n'est pas la première fois que la France est endettée dans son histoire, et depuis 40 ans, enfin depuis 50 ans même maintenant, la dette n'a fait que croître, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, la dette publique s'élevait à 20% du PIB lorsque Mitterrand a été élu. Avant la crise de 2008, on était à 70% du PIB. Et donc aujourd'hui, nous serions à peu près 115%. Donc non, on n'a pas eu des phases où on est monté très haut et ensuite redescendu, ou alors il faut remonter très très loin dans l'histoire. Mais sur, disons, depuis les 30 Glorieuses, non, là c'est vraiment un record. On n'a jamais été aussi endetté.
Que un taux d'endettement aussi élevé pour un État, c'est un problème en Europe. Est-ce que ça ne fait pas partie des recommandations de la Banque Centrale Européenne que de ne pas dépasser un certain montant de dette?
Alors, pour aller à l'essentiel, la dette en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une entreprise qui s'endette, on peut considérer que c'est une excellente chose si c'est un investissement qu'elle réalise pour demain. Un ménage qui s'endette pour passer de locataire à propriétaire, une fois que le prêt sera remboursé, eh bien, on va dire que c'était un excellent investissement. Donc, en soi, s'endetter fait partie de la dynamique du système économique. C'est simplement mobiliser aujourd'hui des revenus que l'on anticipe pour demain. Concernant l'État, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on décide de construire des infrastructures qui ne seront rentables que dans 10, 15, 20 ou 30 ans, eh bien, il faut bien mobiliser la somme aujourd'hui. Et donc, l'endettement de l'État, je te dirais presque, est plutôt une preuve de vision de l'avenir. Quand l'État s'endette, c'est qu'il se projette sur l'avenir. Donc en soi, l'endettement public n'est pas un problème. Là où il devient un problème, c'est dans deux cas, et c'est pour ça que la Banque Centrale... Enfin, en l'occurrence, c'est pas la Banque Centrale qui nous limite, c'est la Commission Européenne. Donc c'est pour ça que la Commission Européenne a visé dans ses critères de Maastricht, et aujourd'hui dans le pacte de stabilité de croissance d'Amsterdam, de limiter en fait l'endettement public. L'endettement est un problème, un, quand il devient très élevé, et on y reviendra juste après, Eric, à partir de quelque chose que tu connais bien à ce sujet. Et l'endettement devient un problème, surtout lorsque il ne sert pas à financer des investissements pour demain, qui généreront de nouvelles recettes qui permettront de rembourser la dette, mais qu'il permet juste de faire face aux dépenses courantes, voire à rembourser les emprunts antérieurs. Et là, effectivement, cela devient un problème en soi.
Alors là, on est un peu dans ce cas de figure, puisque les 15% d'augmentation de la dette, elle vient du refinancement du secteur économique, donc c'est purement à perte, c'est pas du tout un investissement.
Alors, ce n'est pas un investissement, mais je te dirais que ce n'est pas la situation la pire qui soit. Parce que on le sait, on a l'expérience de 1929, si là, on ne fait rien, si l'État ne fait rien, la récession va être bien, bien pire que prévu. Et donc, cet endettement, en fait, il sert quand même à maintenir la tête hors de l'eau. Si on ne fait pas ça, les recettes de TVA s'écrouleront, et en fait, c'est un cercle vicieux. Si, pour éviter l'endettement, on ne met pas en place ces politiques, eh bien en fait, le déficit va être encore plus important. Donc en ce sens-là, c'est quand même en quelque sorte un investissement sur l'avenir, malgré tout.
Très bien. Alors, à ce stade de l'émission, Renaud, je te propose d'écouter un petit fichier son d'un économiste de la revue Capital qui, il y a quelques mois, évoquait le problème de la dette. Parce que le problème de la dette, évidemment, ne se pose pas avec cette crise du coronavirus. Il posait des questions déjà bien avant.
Aujourd'hui, clairement, on entend que les dettes publiques ne sont pas un danger, que les taux d'intérêt sont bas, donc tout va bien. C'est vrai, sauf qu'il y a néanmoins un danger à moyen terme. C'est-à-dire qu'on oublie que même si les taux d'intérêt sont bas, parfois même négatifs, eh bien, il faudra quand même rembourser ces dettes. Donc tout le problème, c'est de savoir si cette dette génère de la croissance, de l'activité, pas de problème. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Sachant que dans l'ensemble des pays développés, à part l'Allemagne, la dette publique est autour des 100% de notre PIB. Donc c'est ce que j'appelle un aléa moral. Comme les taux sont bas, on se dit, ben, on continue comme ça. Mais si derrière la croissance ne revient pas, eh bien, tôt ou tard, il y aura effectivement un danger sur notre crédibilité. Donc quand les taux d'intérêt vont augmenter, eh bien, là aussi, il faudra payer la facture. Donc, en gros, ces taux d'intérêt extrêmement bas, cette dette publique, c'est une sorte d'opium, hein, au finalement, évidemment, alors on est complètement accro. Donc, tant qu'on est sous l'effet de cet opium, tout va bien. Puis le jour où on se réveille, où il faut se sevrer, eh bien là, effectivement, ça peut être dangereux en espérant que d'ici là, il n'y a pas une overdose.
Donc voilà, ça revient exactement à ce que tu disais juste avant que je lance cet enregistrement, Renaud. La dette peut être un problème si elle n'est pas suivie par une forme de croissance.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, une fois de plus, l'État a une responsabilité, je te dirais une responsabilité sociale. Il y a des moyens simples de réduire la dette. C'est d'accepter de laisser tomber dans l'immense pauvreté une grande partie de la population. Cette année, nous allons... Donc c'est un petit problème. Voilà. Cette année, par exemple, nous allons avoir un déficit. Donc, c'est-à-dire une différence entre les recettes et les dépenses de l'État qui avoisinera les 185 milliards d'euros du fait de la crise. Sur ces 185 milliards d'euros, il y a par exemple la prise en compte du chômage partiel, c'est-à-dire le fait qu'on a permis aux salariés dont l'entreprise était temporairement fermée de pouvoir continuer à toucher 84% de leur salaire et non pas un peu moins de 55% s'ils avaient été au chômage. Tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, mais c'est un moyen qui a aussi été mis en place pour éviter à une partie de la population de tomber dans l'extrême pauvreté. Donc là, effectivement, économiquement parlant, on ne peut pas appeler ça un investissement, puisque ces sommes, en tant que telles, ne sont pas là pour permettre une rentabilisation future. Mais ce faisant, l'État remplit quand même une de ses fonctions essentielles, qui est de maintenir une paix sociale, une cohésion sociale, d'éviter qu'une partie de la population se retrouve exclue, comme ça peut être le cas aux États-Unis, par exemple, lorsque le marché du travail est déprimé. Donc c'est compliqué de dire ça. Oui, la dette est un problème, même s'il n'y a pas de croissance, mais en même temps, elle est aussi une solution à d'autres problèmes.
D'accord. Alors, ce qu'évoquait ce chroniqueur dans cet extrait, c'était celui de la question des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, pour l'instant, sont extrêmement faibles parce que la France a une crédibilité auprès de ses débiteurs qui est extrêmement élevée. Et je pense que ça continuera comme ça pendant un certain temps. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, comme il le disait, le risque n'est pas de se retrouver dans une situation comme celle de l'Italie, où d'un seul coup, la confiance dans la France en tant que débiteur baisse et qu'on se retrouve avec des taux d'intérêt faramineux à payer ?
Alors, le risque est toujours là. Pour l'instant, je ne peux que parler de ce qui s'est déjà passé. Depuis que nous avons passé la barre des 40-50% de dette publique sur le PIB, on entend régulièrement des Cassandres nous expliquer que ça y est, on est arrivé à un tel niveau d'endettement que les taux d'intérêt vont forcément exploser. Bon, là, nous allons avoisiner les 115% du PIB et nous gardons des taux qui sont toujours extrêmement faible, parce que, quel que soit une fois de plus ce degré d'endettement, c'est aussi la contrepartie du fait que notre système économique continue à bien fonctionner. Aujourd'hui, si je suis un investisseur, je préfère investir dans un pays comme la France, où je sais qu'après le confinement et après la crise, bah, globalement, le pouvoir d'achat des ménages français sera suffisant pour permettre la relance, qu'investir dans un pays où, après la crise, ça sera table rase et que la situation sera bien pire qu'au départ. Donc, évidemment qu'on ne peut pas savoir ce qui va advenir demain. Est-ce qu'au bout de 130% du PIB, d'un seul coup, on va nous dire « ça y est, là, on a passé un cap » et les taux d'intérêt explosent ? C'est possible. Mais en fait, on n'en sait strictement rien.
Alors, question complémentaire là-dessus, Renaud. Est-ce que notre taux d'endettement est beaucoup plus élevé que nos voisins européens ou que les autres grandes puissances mondiales, ou est-ce qu'on est tous à peu près à jouer dans la même cour ?
Non, on est plutôt dans une fourchette haute. Nous, en France, il y a bien pire que nous. Le Japon en est à 240% de dette publique rapportée sur le PIB. Et pourtant, le Japon reste la troisième puissance économique mondiale. Nous, nous restons la septième puissance économique mondiale. Donc, une fois de plus, en tant que tel. Et puis, je voudrais revenir sur deux choses très importantes. La première, c'est sur le calcul. 115, donc, on va être à 115% de ratio dette sur PIB. C'est énorme, 115%. C'est énorme, mais rapportons ça à un ménage, tiens, pour une fois. Si j'emprunte pour acheter une maison, je peux te le dire, la quasi-totalité des emprunts amène, si tu fais le rapport montant que tu as emprunté sur ton revenu de l'année, tu es largement au-dessus des 100%. Et pourtant, personne ne hurle en disant quelle infamie d'avoir fait ça. En fait, quand on fait ce rapport, on compare ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire un montant de recettes, le PIB, à un stock, à savoir la dette. Et donc, comme cette dette va être remboursée sur 10, 15, 20, 30 ans, je te dirais presque que si tu voulais vraiment avoir un indicateur intéressant, il faudrait faire le rapport dette sur somme des PIB que l'on va avoir sur toute la durée du remboursement. Et là, tu verrais qu'on serait à 5-6%, c'est-à-dire que chaque année, on va être obligé de mobiliser à peu près 5 ou 6% de la richesse nationale, non pas pour verser des recettes et des rémunérations aux agents économiques, mais pour rembourser la dette. Bon,
Toujours dans le même ordre d'idée, Renaud, tu as un discours plutôt rassurant sur l'existence de cette dette. Ce n'est pas la première fois que nous devons affronter des difficultés de cet ordre. Et la France a l'air insolide, on l'a bien compris dans ton discours. Mais est-ce qu'on ne risque pas, Renaud, dans les mois à venir, d'entendre des hommes politiques, les représentants du pouvoir en place, nous dire « il faut maintenant réduire la dette, donc on applique la rigueur à nouveau ».
Si. Totalement. Et ce que je te propose, Eric, c'est que comme je vois que le temps passe extrêmement rapidement en ta compagnie, je te propose que là, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, et en particulier à revenir sur quelque chose que tu connais bien, qui est une étude qui avait été faite dans les années 2000 sur le montant de dette à ne pas dépasser, et qu'en fait, on s'est aperçu a posteriori que l'étude était biaisée et était fausse, et que ça a permis de justifier bien des politiques. Et donc, comme ça va être un petit peu long d'y revenir, ce que je te propose en fait, c'est qu'on fasse une deuxième émission, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur la dette publique et sur son avenir.
D'accord, et je vois très bien à quoi tu fais allusion, Renaud, et je pense qu'on parlera un peu de fichiers Excel aussi dans cette émission.
Exactement, Eric.
Très bien. Eh bien, je te dis alors à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.